Audiolib présente En sacrifice à Moloch d'Asa Larson, lu par Odile Cohen. Je lis un passage du Lévitique. Dieu est en colère. Il clame ses lois et les châtiments qu'encourent ceux qui les enfreignent. Il crache son ire et profère ses menaces. Au chapitre 20, le Seigneur promet à celui qui sacrifiera un enfant à Moloch qu'il sera puni de mort et lapidé. Dieu le poursuivra de son courroux et le bannira de la communauté des hommes. Je me demande comment il s'y prendra si le gars a été lapidé. Quoi qu'il en soit, ceux qui détourneront les yeux de l'homme qui sacrifie son enfant à Moloch exposeront leur descendance tout entière aux foudres du Tout-Puissant. Je me documente un peu sur ce Moloch. Il semble qu'il s'agisse d'une divinité capable de donner richesse, belle moisson et victoire au combat. Existe-t-il une seule divinité qui ne promette pas pareille récompense? Des nouveau-nés étaient donnés en sacrifice. On fabriquait des statues creuses en cuivre, avec une large poitrine. On allumait un feu à l'intérieur des statues, qu'on chauffait à blanc, puis on déposait les enfants vivants entre les bras de Moloch. J'ai pensé à cela en écrivant ce livre, au fait de sacrifier des enfants dans le but de prospérer, de jouir de biens terrestres. Qu'est-ce qui peut bien faire hurler un chien de la sorte? Samuel Johansson n'a encore jamais entendu son chien donner de la voix de cette façon. Il est là, dans sa cuisine, en train de beurrer tranquillement une tartine. Son chien d'élan norvégien est attaché à sa chaîne dans la cour. Le calme règne alentour. Le chien se met à aboyer. Un aboiement sonore et furieux pour commencer. Qu'est-ce qui le fait aboyer comme ça? Pas un écureuil, en tout cas. Le fermier connaît sa manière d'aboyer quand il voit un écureuil. Un élan? Non. Sa voix est plus grave et plus pleine quand il a senti la piste d'un élan. Soudain, il doit se passer quelque chose parce que le chien pousse un hurlement. Il hurle comme si les portes de l'enfer venaient de s'ouvrir sous son nez. Le bruit réveille chez Samuel Johansson une terreur ancestrale. Puis c'est le silence. Samuel sort de chez lui en courant. Sans veste, sans souliers, sans réfléchir. Il trébuche dans l'obscurité de l'automne vers le garage et le chenil. L'ours est là, debout dans le halo de l'éclairage extérieur. Il tire sur le chien pour l'emporter, mais le corps sans vie de l'animal est toujours accroché à la chaîne. L'ours tourne sa gueule ensanglantée vers Samuel et rugit. Samuel recule, manque de tomber. Mais tout à coup, il sent grandir en lui une force surnaturelle et il court plus vite qu'il n'a jamais couru, retournant vers la maison pour aller chercher la carabine. L'ours ne le suit pas, et pourtant Johansson a l'impression de sentir sur sa nuque le souffle chaud de l'énorme bête. Il charge l'arme, les mains moites, avant de rouvrir sa porte avec précaution. Il doit garder son calme et viser juste. S'il le manque, tout peut aller très vite. L'ours blessé pourrait bondir sur lui en quelques secondes. Il avance dans le noir, un pas à la fois, les poils dressés sur sa nuque comme de petites épingles. L'ours est toujours là, occupé à dévorer ce qui reste du chien. Il lève la tête quand Samuel retire la sécurité de la carabine. Samuel n'a jamais autant tremblé qu'à présent. Il faut faire vite. Il essaie de garder son calme sans y parvenir. L'ours balance la tête, menaçant, grogne, respire comme un soufflet de forge. Il fait démonstrativement un pas en avant. Samuel tire, touche, l'ours tombe, mais il se relève aussitôt et disparaît dans l'obscurité de la forêt. À présent, il est introuvable. La lumière du garage n'éclaire pas assez loin. Samuel rentre chez lui à reculons, pointant la carabine ici et là.